ne sera rien. Juste pour faire du bruit.
Bonsoir, bonsoir. La pleine lune prend la relève. Le remue-ménage s'éteint. La pleine lune dans vos oreilles sur Onde Femme 93.8 Radio Zone. Excusez-nous du retard, mais vous savez, la vie d'une radio est très mouvementée. Et oui, et en plus, Radio Zone et Onde Femme s'informatisent. Quelle nouvelle! Les nouvelles technologies pénètrent dans le studio. C'est un bordel pas imaginable. Le mot est juste. Les nouvelles technologies, c'est beau quand ça marche, bien sûr. Mais nous espérons que dès ce soir, le programme sera aussi parfait que vous en avez l'habitude. En tout cas, notre menu de ce soir est très beau, si le menu de l'ordinateur le laisse passer. Tout d'abord, les informels avec les nouvelles et tous les rendez-vous que Marie-Ange vous a concoctés pour votre semaine. Et puis, à partir de 20h, une émission sur les violences faites aux femmes à propos de la fête qu'organise le groupe contre le harcèlement sexuel ce samedi à Genève, la conférence de presse du groupe et ensuite une réflexion sur les mythes qui entourent les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel ou de violence. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, première nouvelle, grande nouvelle, Radio Zone s'informatise, vous l'avez peut-être déjà remarqué, les nouvelles technologies pénètrent dans le studio, mais pour être encore plus performant et pour que notre menu marche vraiment, nous avons besoin d'un appareil, un ordinateur Amstrad CPC 6128. Alors toute personne qui en a un dans sa salle de bain dont il ou elle veut se débarrasser, téléphonez-nous au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse, 033 depuis Delémont. Suisses aiguisent leurs dents et préparent leur campagne. Les initiatives antinucléaires, qui seront vraisemblablement soumises au peuple suisse en septembre prochain, doivent être rejetées, s'écrient les nucléocrates, car ni les économies ni les autres sources d'énergie ne pourront remplacer les centrales atomiques qui fournissent 40% de l'électricité produite en Suisse. Telle est la position de l'Union des centrales suisses d'électricité, l'UCS, qui l'a présentée à la presse lundi à Berne. L'abandon de l'énergie nucléaire préconisé par la première initiative est, je cite, « impossible sans que soient prises des mesures relevant de l'économie de guerre ». Même si les citoyens et citoyennes acceptaient cette initiative, ils continueraient à exiger une fourniture de courant sans faille en toutes circonstances. Nous tenons aujourd'hui à dire à la population et à l'économie nationale que c'est impossible. Fin de citation. D'apparence plus anodine, la seconde initiative réclamant un moratoire de 10 ans aurait elle aussi des conséquences graves selon l'UCS. Nous pourrions faire remarquer que finalement nous vivons dans un espèce de moratoire de fait. Depuis Tchernobyl, aucune centrale n'a été construite et tous les projets ont été abandonnés. De son côté, la vice-directrice de l'UCS, Irène Egerter, a insisté sur les raisons de sauvegarder l'option nucléaire. En outre, la quantité de déchets est modeste par rapport aux autres déchets spéciaux produits par notre société. La centrale de Gösgen ne produit que 3 à 4 mètres cubes de déchets hautement radioactifs, a-t-elle précisé, par an. Les nucléocrates se sont également lancés à fond dans une large campagne publicitaire. Ainsi ont paru dans les journaux qui annoncent les programmes radio-TV de pleines pages couleurs où l'on proclame la nécessité du nucléaire, je cite, « une énergie sûre et non polluante », fin de citation, sans commentaire. Dans la première de ces publicités, on voit un petit garçon qui veut jouer au train, mais il n'y a plus d'électricité et le voici en panne. Dans l'autre, c'est une petite fille qui joue à la coiffeuse et elle aussi, elle reste le bec dans l'eau. Une chose est sûre, les électriciens veulent en tout cas conserver les femmes et les hommes dans des rôles bien stéréotypés. Quant à la sécurité et à la sûreté du nucléaire, laissez-nous en douter. Au fait, est-ce que ce sont les consommateurs qui, à travers leur paiement aux services industriels, payent ce genre de publicité ? En tout cas, des nouvelles qui nous viennent de Tchernobyl, de l'Union soviétique, nous font encore plus douter sur cette soi-disant énergie sûre et non polluante. Car à Tchernobyl, la leucémie frappe surtout les enfants et il y a un véritable appel à l'aide qui est lancé. Environ 95% des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, des enfants atteints de leucémie, meurent sous les yeux de leurs compagnons de souffrance. C'est ce que a déclaré Alexandre Cheparoukine, qui organise l'aide médicale aux enfants cancéreux. Il l'a organisé lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à Saint-Gall. Il a aussi également montré des films vidéo qui montrent la situation des habitants de la région contaminée et des enfants qui meurent dans le service hématologique. Pendant 3 ans, les gens ont vécu dans la région contaminée sans information sur les dangers auxquels ils étaient exposés. Même à Moscou, on ignorait jusqu'à une date récente l'ampleur de la tragédie consécutive à la catastrophe de Tchernobyl. Les services médicaux officiels parlent aujourd'hui encore de seulement 31 victimes immédiates en Ukraine. Ce sont les pompiers en partie qui sont morts tout de suite après avoir essayé d'arrêter l'incendie à Tchernobyl. Les officiels nient tout dommage à long terme. Mais selon des estimations d'autres médecins, les cas de leucémie chez les enfants sont 3 fois plus nombreux qu'avant la catastrophe. Personne n'articule toutefois de chiffres précis. De nombreux enfants ne sont hospitalisés que lorsqu'ils sont gravement atteints et meurent peu de temps après. Entre la vérité officielle et celle des spécialistes, c'est toute l'ampleur d'une tragédie qui transparaît. Tchernobyl a tué et il tuera encore. Près de 4 ans après la plus grande catastrophe du nucléaire civil, la page de Tchernobyl est loin d'être tournée. En noyant le foyer d'explosion sous une chape de béton et de plomb, en évacuant la population, en décrétant une zone interdite d'une 30 kilomètres, on pensait avoir maîtrisé les conséquences de la tragédie. Mais les chiffres officiels rassurants, publiés régulièrement sur le suivi médical des populations exposées aux radiations, viennent encore conforter cette illusion. Depuis peu, cependant, avec les révélations qui filtrent ça et là, on se rend compte de plus en plus que Tchernobyl n'en est qu'à ses débuts, que le pire hypothèque l'avenir et surtout qu'aucune certitude ne pointe. Les insidieuses radiations poursuivent leur œuvre de mort. Rien ne semble en arrêter la progression. Les enfants meurent par la leucémie, les mères mettent au monde des êtres difformes, la végétation pousse de façon désordonnée. L'eau, l'alimentation sont frappées d'interdiction. Des milliers de kilomètres carrés condamnés par le rayonnement, un holocauste nucléaire à petit feu. Tchernobyl vaut bien cette vérité-là et les nucléocrates occidentaux pourraient aussi en prendre leçon plutôt que de se retrancher derrière leur foi inébranlable que chez nous, ça ne peut pas arriver. Dieu existe, il se chauffe au nucléaire. À Genève, c'est le printemps et les squatters reviennent. Nouveau squat donc à Genève, dans le quartier des Pâquis. 5 appartements ont été investis le vendredi dans un immeuble du quartier des Pâquis. Soutenu par la régie populaire, l'intersquat et la coordination contre la crise du logement, les nouveaux occupants se sont installés aux 4 rues du Léman au Pâquis. L'immeuble en question appartient à l'État grec, le propriétaire qui souhaiterait transformer les appartements en bureaux pour son personnel d'ambassade. Un membre de la coordination a exprimé un sentiment d'impatience générale. Les occupations vont reprendre au même rythme que l'an dernier, soit une par mois, a-t-il précisé. Bonne chance pour les squatteurs. À Genève, comme ailleurs, l'aide humanitaire et politique se renforce pour lutter contre le conflit israélo-palestinien. Plus que jamais, la situation dans les territoires occupés de Palestine inquiète les sympathisants genevois. La répression de l'intifada et les difficultés du processus politique israélien dans le règlement du conflit exigent un soutien plus large et plus efficace, déclare l'association Suisse-Palestine, ainsi que Clotilde Hellénic, qui a mis sur pied une association appelée Une Terre de Peuple et qui organise des parrainages d'enfants palestiniens. L'association Suisse-Palestine organise d'ailleurs une conférence le vendredi 30 mars à 20h30 au Centre des Unions Chrétiennes. Deux thèmes seront abordés, la situation actuelle et les perspectives futures, ainsi que la campagne de boycott que a entamée l'association Suisse-Palestine à l'égard d'Israël. Quant au parrainage lancé par l'initiative de Clotilde Hellénic, ils sont en bonne voie. Nous avons atteint aujourd'hui 16 parrainages d'enfants palestiniens dont la mère est en prison ou de prisonnières mineures. C'est ce qu'annonce Clotilde Hellénic, fondatrice de Une Terre de Peuple. L'intérêt de ces parrainages, outre qu'ils sortent les familles d'une grande détresse, réside dans le fait qu'ils transitent par une organisation israélienne. En effet, il existe un groupe de femmes israéliennes fatiguées des scissions divisant les deux peuples et qui se mobilisent pour la défense des prisonnières palestiniennes. Au début, le parrainage consistait en une aide matérielle, soit 75 francs, versée mensuellement pour une durée variable en fonction des besoins des familles et de l'enfant. En ce qui concerne l'aide morale, l'association Une Terre de Peuple la conçoit comme, je cite, « l'édification d'un pont d'écoute et d'échange par-dessus l'abîme d'isolement dans lequel le peuple palestinien se trouve plongé par la volonté militaire ». Mais aujourd'hui, la nature des parrainages a quelque peu changé et de l'aide humanitaire, on passe à une protestation politique. Les parrains ont été confrontés à des situations où spontanément, ils se sont mis à défendre leurs enfants ou sa famille contre les violations qu'ils subissent. Par exemple, c'est le cas d'une jeune fille qui, grâce à l'action de ses parrains, a pu être réadmise à l'école à sa sortie de prison, malgré les résistances de la directrice. À Genève, à la cour d'assises, procès pour viol. Il est toujours aussi dur dans les cas de viol d'être une plaignante. Une jeune femme a été interminablement interrogée et s'est beaucoup contredite au cours de l'instruction et du procès. Mais finalement, elle a convaincu les jurys qu'elle avait été effectivement violée. On l'a dit et redit, déposer plainte pour viol, c'est engager une rude bataille où tous les coups sont permis et où les plus bas sont les plus courants. C'est également, unique témoin du crime dont on se plaint, s'exposer à voir sa parole systématiquement mise en doute. C'est enfin courir le risque risque de se trouver transformé en accusé, de voir toute sa vie passer au crible, chaque contradiction et chaque déviance de la norme relevée, commentée, montée en épingle. Le cas de Denise, qui a occupé la cour d'assises jusqu'à vendredi soir, constitue une nouvelle démonstration de ce phénomène à Genève. L'accusé s'appelle Bernard, c'est un Américain, il vit ou dit vivre de ses charmes, c'est-à-dire qu'il traîne dans les rues, aborde les dames et leur demande un peu d'argent et parfois il propose en contre-prestation en nature. Denise a comme d'autres, l'a pris moitié en pitié, moitié en amitié. Elle lui a donné de l'argent, elle a bu un café avec lui, elle lui a prêté son appartement un week-end qu'elle était absente. Un soir, il revient complètement saoul, il essaye d'entrer, il entre finalement et il la viole et terrorise jusqu'au matin. L'ami de Denise, qui essaye de l'atteindre par téléphone, n'arrivant pas à l'atteindre, s'inquiète et finalement appelle les gendarmes. Ceux-ci se rendent sur place à 10 heures. Ils arrivent pour recueillir sur le palier Denise, nue, pleurant, en larmes, frappée. Bernard lui assure qu'il faisait auprès de Denise son métier de gigolo. C'était à l'entendre une nymphomane qui lui en voulait de n'être pas à la hauteur de ses appétits. Les questions posées à l'instruction ont été très dures pour Denise. Aimez-vous les noirs? Vous droguez-vous? Vous êtes-vous drogué? Est-il exact que vous avez traversé une période de désintérêt pour la sexualité? Pourquoi avez-vous reçu l'accusé chez vous? Pourquoi n'avez-vous pas crié plus fort, plus tôt, tenté de vous échapper, alerté les voisins? Il y a peu de questions à en croire les procès-verbaux d'instruction qui ont été épargnés à Denise au cours de cette enquête qui l'a laissée angoissée et complètement stressée. Finalement, Bernard a été reconnu coupable de viol et condamné à 6 ans de réclusion. En France, c'est aussi une histoire de viol et de meurtre d'une petite fille par un Marocain qui suscite l'émotion. Les parents de la petite fille, Cécile, ont démontré un très grand courage en dénonçant l'exploitation du drame à, je cite, des fins racistes et xénophobes. Les parents de Cécile, 11 ans, enlevés le 7 mars dernier, violés, assassinés près de Montpellier, dénoncent, je cite, toute initiative tendant à utiliser ce meurtre à des fins racistes et xénophobes. Le meurtrier dans cette affaire est un ressortissant marocain qui est passé aux aveux. Les parents de la fillette ont tenu dans leur lettre à se, je cite toujours, désolidariser très fermement de toute initiative tendant à utiliser l'immense émotion suscitée par le meurtre de leur fille à des fins racistes et xénophobes. L'assassin présumé de Cécile, ajoute les parents, se prénomme Mahmoud. Mais pour d'autres enfants, le bourreau se prénommait Pierre, Paul ou Jean. Nous dénions à quiconque le droit de mêler le nom de Cécile à d'odieuses tentatives de récupération, conclut la lettre. Ce qui n'a pas empêché le Front National d'appeler à Montpellier à une manifestation pour, je cite, « rendre un dernier hommage à la petite Cécile », manifestation qui a réuni 100 000 personnes frontalement nationales. En France, une militante algérienne de SOS Racisme se fait passer à tabac. passé à tabac par un homme au visage masqué par un foulard blanc, bleu, rouge, criant de la part pour chaque, en donnant les coups de la part de Le Pen, un pour SOS, un pour le PS. Louisa Zimmour a passé 8 jours à l'hôpital après s'être fait agresser à Saint-Martin-d'Hères. Louisa Zimmour a passé 8 jours dans un état semi-comaté. Elle a été victime d'un homme masqué qui lui a défoncé le crâne à coups de poing américain. Il avait le visage masqué par un foulard bleu, blanc, rouge. Elle a clairement entendu son agresseur déclarer « Tiens, c'est de la part de Le Pen. Ça, c'est pour SOS Racisme. Ça, c'est pour le PS. » Louisa Zimmour, 45 ans, d'origine algérienne. Assistante sociale, elle a 4 enfants et elle conserve toujours ouverte sa porte à toutes les détresses. Elle est aussi l'écrivain public d'une population analphabète de la région. Louisa est issue d'une famille bourgeoise, étudiante en droit. Elle s'est mariée avec un ouvrier en bâtiment algérien et a choisi de vivre dans le quartier sud, celui des immigrés, un des quartiers les plus pauvres. Depuis 20 ans, elle lutte en faveur de l'intégration des immigrés sans responsabilité officielle. Elle a finalement porté plainte en disant « Si j'ai porté plainte, ce n'est pas parce que je veux me venger, mais c'est pour lutter contre la montée de la violence et du racisme. » Notre dossier de ce soir, la politique de planning familial en Chine exacerbe toujours les conflits entre paysans et planificateurs, entre parents et enfants. Les Chinois poussés par Mao à faire beaucoup d'enfants pour être les plus forts sont aujourd'hui dans une situation catastrophique. À tel point qu'on a célébré comme un deuil national la naissance symbolique du 1100 millionième petit Chinois le 14 avril 1989. La Chine a plus que doublé sa population en 40 ans. Le régime a tendance à présenter les mesures draconiennes de contrôle des naissances sous le jour d'une opération douloureuse mais positive et a passé sous silence les retombées catastrophiques de l'embardée démographique lancée par Mao Tse-tung et les conséquences indirectes, elles aussi très graves, sur le plan de l'équilibre social, du coup de frein. La première des constatations qu'on puisse faire, en effet, que la politique de l'enfant unique ne marche pas vraiment. Le recensement de 1990 risque, de ce point de vue, d'apporter de douloureuses surprises. Selon les estimations officielles les plus récentes, la natalité a continué de progresser en 1989. L'objectif visant à stabiliser la population à 1,2 milliard de personnes en l'an 2000 est depuis belle lurette abandonnée et il faudra peut-être réviser à la hausse le chiffre actuel de 1,3 milliard. Le succès du planning familial chinois, relancé au début des années 80, après le criminel laissez-faire des enfants de la période maoïste, est à peu près indéniable dans les grandes villes où le régime dispose de moyens policiers et économiques de sa politique. Selon des statistiques officielles, 95% des enfants de 8 ans des grandes villes sont des enfants uniques. Les retombées de cette mutation sociale sont multiples. D'abord, le règne de l'enfant unique et ici tout particulièrement d'essence tyrannique. Ces petits moutards de la génération Deng sont des redoutables pestes dans bien des cas. On leur passe tout, car ils savent intuitivement que les parents feront tout pour leur trouver la meilleure voie, la carrière la plus prometteuse, le meilleur parti à l'heure du mariage. Du coup, Confucius et son respect filial absolu ont pris du plomb dans l'aile. L'autorité du maître d'école également. Il suffit pour deviner l'ampleur du problème de constater le nombre de spots publicitaires télévisés dans le cadre d'une émission quotidienne d'émulation civique qui s'adresse aux parents pour qu'ils rétablissent un peu plus d'autorité sur leur progéniture. Une conséquence plus inquiétante à long terme est le vieillissement de la population qui se dessine. Ils seront 130 millions en l'an 2000, soit 10% de la population. Et malgré le caractère très rudimentaire du système de retraite mis graduellement en place pour les employés du secteur public, ils accapareront alors 17% de la masse salariale. Et puis, autre formule, comme les affectionne la langue chinoise, il y a le grave problème moral des bébés noirs, ces enfants illégaux, car nés hors du rigoureux planning officiel, sur lesquels l'État n'a aucun contrôle et qui parfois même n'ont aucune existence légale. Il en est 9 millions par an, principalement à la campagne. Autre retombée, bien sûr, à la campagne surtout, celui de l'infanticide féminin, inchiffrable par définition dans un régime enclin au mystère, mais d'une pratique suffisamment courante pour faire surface régulièrement. Une étude faite aux États-Unis, à partir des statistiques recueillies dans le recensement, montrait que 60 000 bébés-filles disparaissaient sans explication des totaux disponibles par an. Le fait est qu'aujourd'hui, on reconnaît officiellement que le nombre de garçons nés dans une année est supérieur de 2,2% à celui des filles. Le régime attribue cette différence à la pratique de l'avortement précoce dès que le sexe du fœtus est connu grâce à l'échographie. Le problème reste entier. Il y aura dans 20 ans pas moins de 40 millions de jeunes hommes dans l'impossibilité mathématique de trouver une épouse. L'irresponsabilité du Parti communiste a ainsi créé un casse-tête gigantesque que les difficultés du redressement économique ne font aujourd'hui que compliquer. Personne ne s'était élevé au sein de la direction contre les exhortations de Mao à faire des petits Chinois. Il y a également un très grand conflit d'intérêts entre d'un côté la famille paysanne qui, pour prospérer dans des conditions chinoises, veut avoir beaucoup d'enfants et de l'autre, le travailleur du planning familial qui passe sa vie l'œil rivé sur les tableaux de naissance autorisés et sur le ventre des femmes cherchant à démasquer les mères enceintes qui cachent leur grossesse aussi longtemps que possible avant de disparaître de la vie sociale pour accoucher discrètement à l'écart de l'administration. La Chine n'a pas fini de souffrir de l'héritage maoïste. C'était les nouvelles de la pleine lune, 3,8 MHz. Et le dimanche 1er avril, n'oubliez pas d'aller voter. Il faut voter non au Palais Wilson, c'est-à-dire oui à un projet social pour Genève, un véritable projet pour le futur. Oui aussi à l'initiative Halte au bétonnage, parce qu'en Suisse, on construit plus de place pour les voitures que pour les enfants et les gens vivants. Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, Marie-Ange vous dira tout ce qu'il y a à faire cette semaine à Genève.